Le roi posthume.
Et Giovanni di Francia rentra à Sienne, y reprit son commerce de banque et de laine, et pendant 2 ans se tint quoi. Simplement, il se regardait souvent dans les miroirs. Il ne s'endormait pas sans penser qu'il était le fils de la reine Clémence de Hongrie, le parent des souverains de Naples, l'arrière-petit-fils de Saint-Louis. Mais il n'avait pas une immense audace de cœur. On ne sort pas brusquement de Sienne à 40 ans pour crier « Je suis le roi de France !» sans risquer d'être pris pour un fou. L'assassinat de Colas de Rienzi, son protecteur de 3 jours, l'avait fait sérieusement réfléchir. Et d'abord, qui serait-il allé trouver? Toutefois, il n'avait pas gardé la chose si secrète qu'il n'en eût parlé un peu à son épouse Francesca, curieuse comme toutes les femmes, à son ami Guidarelli, curieux comme tous les notaires, et surtout à Fra Bartolomeo, de l'ordre des frères prêcheurs, curieux comme tous les confesseurs. Fra Bartolomeo était un moine italien enthousiaste et bavard qui se voyait déjà chapelain du roi. Giannino lui avait montré les pièces remises par Rienzi. Il commença d'en parler dans la ville. Et les Siennois bientôt de se chuchoter ce miracle. Le légitime roi de France était parmi leurs concitoyens. On s'attroupait devant le Palazzo Tolomei. Quand on venait commander des laines à Giannino, on se courbait très bas. On était honoré de lui signer une traite. On se le désignait lorsqu'il marchait dans les petites rues. Les voyageurs de commerce qui avaient été en France assuraient qu'il avait tout à fait le visage des princes de là-bas, blond, les joues larges, les sourcils un peu écartés. Et voilà que les marchands siennois, dispersant la nouvelle auprès de leurs correspondants en tous comptoirs italiens d'Europe, et voilà qu'on découvre que les frères Jourdain et Antoine, les deux Augustins que chacun croyait morts tant ils se présentaient dans leurs relations écrites comme vieux ou malades, étaient toujours bien vivants et même s'apprêtaient à partir pour la Terre Sainte. Et voilà que ces deux moines écrivent au Conseil de la République de Sienne pour confirmer toutes leurs déclarations antérieures. Et même le frère Jourdain écrit à Giannino, lui parlant des malheurs de la France et l'exhortant à prendre bon courage. Les malheurs, en effet, étaient grands. Le roi Jean II, le faux roi, disaient maintenant les Siennois, avait donné toute la mesure de son génie dans une grande bataille qui s'était livrée à l'ouest de son royaume, du côté de Poitiers. Parce que son père, Philippe VI, s'était fait battre à Crécy par des troupes de pied, Jean II, le jour de Poitiers, avait décidé de mettre à terre ses chevaliers, mais sans leur laisser ôter leur armure, et de les faire marcher ainsi contre un ennemi qui les attendait en haut d'une colline. On les avait découpés dans leurs cuirasses comme des homards crus. Le fils aîné du roi, le dauphin Charles, qui commandait un corps de bataille, s'était éloigné du combat sur l'ordre de son père, assurait-on, mais avec bien de l'empressement à exécuter cet ordre. On racontait aussi que le dauphin avait les mains qui gonflaient et qu'à cause de cela il ne pouvait tenir longtemps une épée. Sa prudence, en tout cas, avait sauvé quelques chevaliers à la France, tandis que Jean II, isolé avec son dernier fils Philippe, qui lui criait « Père, gardez-vous à droite ! Père, gardez-vous à gauche !» alors qu'il avait à se garder d'une armée entière, finissait par se rendre à un chevalier picard passé au service des Anglais. À présent, le roi Valois était prisonnier du roi Édouard III. N'avançait-on pas, comme prix de la rançon, le chiffre fabuleux d'1 million de florins ? Ha ! Il ne fallait pas compter sur les banquiers siennois pour y contribuer. On commentait toutes ces nouvelles avec beaucoup d'animation, un matin d'octobre 1356, devant le Municipio de Sienne, sur la belle place en amphithéâtre bordée de palais ocre et rose. On en discutait en faisant de grands gestes qui effarouchaient les pigeons, lorsque soudain Fra Bartolomeo s'avança dans sa robe blanche vers le groupe le plus nombreux et, justifiant sa renommée de frère prêcheur, commença de parler comme s'il eût été en chair. « On va voir enfin ce qu'est ce roi prisonnier et quels sont ses titres à la couronne de Saint-Louis. Le moment de justice est arrivé. Les calamités qui s'appesantissent sur la France depuis 25 années ne sont que le châtiment d'une infamie. Et Jean de Valois n'est qu'un usurpateur. « Usurpatore, usurpatore !» hurlait Fra Bartolomeo devant la foule qui grossissait. « Il n'a aucun droit au trône qu'il occupe. Le véritable, le légitime roi de France, c'est à Sienne qu'il se trouve et tout le monde le connaît. On l'appelle Giannino Baglioni. » Son doigt indiquait par-dessus les toits la direction du palais Tolomei. « On le croit, le fils de Guccio, fils de Mino. Mais en vérité, il est né en France, du roi Louis et de la reine Clémence de Hongrie. » La ville fut mise par ce prêche dans un tel émoi que le Conseil de la République se réunit sur l'heure, aux municipiaux, demandant à Fra Bartolomeo d'apporter les pièces, les examina et, après une grande délibération, décida de reconnaître Giannino comme roi de France. On allait l'aider à recouvrer son royaume. On allait nommer un conseil de 6 d'entre les citoyens les plus avisés et les plus riches pour veiller à ses intérêts et informer le pape, l'empereur, les souverains, le parlement de Paris qu'il existait un fils de Louis X, honteusement dépossédé mais indiscutable, qui revendiquait son héritage. Et tout d'abord, on lui vota une garde d'honneur et une pension. Giannino, effrayé de cette agitation, commença par tout refuser. Mais le conseil insistait. Le conseil brandissait devant lui ses propres documents et exigeait qu'il fût convaincu. Il finit par raconter ses entrevues avec Colla de Rienzi, dont la mort continuait de l'obséder, et alors l'enthousiasme ne connut pas de limite. Les plus nobles des jeunes siennois se disputaient l'honneur d'être de sa garde. On se serait presque battu entre quartiers comme le jour du Palio.